Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Économie et société, tome 1, les catégories de la sociologie, est la porte d'entrée dans le vaste projet de sociologie compréhensive de Max Weber. Publié après sa mort, à partir d'un manuscrit demeuré inachevé, ce volume ne propose ni une enquête de terrain, ni une histoire linéaire des sociétés. Il construit plutôt les instruments conceptuels nécessaires pour interpréter les conduites humaines, les relations sociales et les formes d'organisation. Weber part d'une question décisive, comment expliquer les phénomènes collectifs sans perdre de vue le sens que les individus attribuent à leurs actes. Sa réponse repose sur des distinctions méthodiques, notamment entre les formes d'action sociale, les types de relations, les ordres légitimes et les modes de domination. L'économie y apparaît non comme une sphère isolée, mais comme une dimension imbriquée dans le droit, le pouvoir, la communauté et les croyances. Dense et systématique, ce tome fournit le vocabulaire analytique qui irrigue une part majeure de la sociologie, de la science politique et de l'histoire sociale moderne. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, est l'action sociale comme point de départ de l'explication sociologique. Weber définit l'action sociale comme un comportement auquel l'acteur attache un sens et qui s'oriente dans son déroulement vers le comportement d'autrui. Cette définition déplace le centre de gravité de l'analyse. Une conduite n'est pas sociale parce qu'elle se produit au sein d'une foule ou parce qu'elle a des effets collectifs. Elle l'est lorsque l'individu tient compte, explicitement ou implicitement, des attentes, réactions ou actions possibles d'autres personnes. Le geste d'acheter, d'obéir, de promettre, de voter ou de s'associer peut ainsi devenir un objet sociologique, à condition d'être rapporté à sa signification pour l'acteur. Weber ne réduit donc pas les phénomènes sociaux à des forces impersonnelles qui s'imposeraient de l'extérieur. Il cherche à articuler la compréhension du sens subjectif et l'explication causale des conséquences observables. Cette démarche ne suppose pas que les acteurs connaissent parfaitement leurs motivations ni que leurs choix soient toujours cohérents. Elle exige plutôt que le chercheur reconstruise des orientations plausibles afin de rendre intelligible une conduite. Le livre montre ainsi que l'analyse des institutions doit commencer par les actions qui les font exister, les reproduisent ou les transforment. Cette perspective individualiste sur le plan méthodologique permet ensuite d'étudier rigoureusement les réalités collectives sans les traiter comme des êtres dotés d'une volonté propre. Deuxièmement, les quatre orientations de l'action et la fonction des idéals types, pour comparer des comportements extrêmement variés. Weber élabore quatre types idéaux d'orientation de l'action. L'action rationnelle en finalité met en rapport des objectifs, des moyens disponibles et des conséquences anticipées. L'action rationnelle en valeur est guidée par la croyance consciente dans la valeur éthique, religieuse, esthétique ou autre d'un acte indépendamment de son succès pratique. L'action affectuelle procède d'émotions et de dispositions sentimentales, tandis que l'action traditionnelle s'appuie sur des habitudes enracinées. Ces catégories ne sont pas des portraits psychologiques complets, ni des cases dans lesquelles chaque individu serait enfermé. Elles constituent des constructions analytiques qui accentuent certains traits, pour rendre une situation comparable à une autre. Une décision réelle combine fréquemment calcul, conviction, émotion et habitude. L'intérêt de la typologie est précisément de permettre d'identifier quelle orientation prédomine, comment elle entre en tension avec les autres et quels effets institutionnels elle peut produire. Weber précise que l'usage méthodique de la rationalité ne signifie pas que la vie sociale serait en réalité dominée par des calculs rationnels. La rationalité en finalité sert de repère particulièrement clair, à partir duquel peuvent être analysés les écarts liés aux valeurs, aux affects ou à la coutume. Cette prudence protège la sociologie contre une vision simplificatrice des motivations humaines. Troisièmement, relations sociales, ordre légitime et production de la stabilité collective, le tome distingue l'action isolée de la relation sociale. Il y a relation lorsque plusieurs acteurs orientent réciproquement leur conduite les uns par rapport aux autres selon un contenu de sens relativement déterminable. Une relation peut être coopérative, concurrentielle, conflictuelle, économique, politique ou familiale. Elle ne requiert ni harmonie ni sentiment partagé. Un conflit durable reste une relation sociale dès lors que les adversaires règlent leurs actes sur ceux de l'autre. Weber examine ensuite la manière dont des régularités se stabilisent sous la forme d'usages, de coutumes, de conventions et de droits. L'ordre ne tient pas uniquement à la contrainte matérielle. Il devient plus durable lorsque les participants lui accordent une forme de validité. Autrement dit, lorsqu'ils estiment qu'il doit être observé. Cette croyance en la légitimité peut reposer sur l'habitude, l'affect, des valeurs ou la crainte de sanctions, selon des combinaisons variables. La distinction est importante parce qu'elle évite de confondre l'existence factuelle d'une règle avec son fondement de validité. Une norme peut être massivement respectée sans être juridiquement codifiée, et une loi peut être formellement en vigueur sans obtenir une adhésion profonde. Weber fournit ainsi une analyse utile des conditions concrètes de la coordination sociale, en montrant que les institutions reposent à la fois sur des attentes mutuelles, des intérêts, des croyances et des dispositifs de contrainte. Quatrièmement, économie, calcul et rapports sociaux au-delà du marché isolé. Dans ce volume, Weber refuse de séparer artificiellement l'activité économique du reste de la vie sociale. L'action économique désigne une conduite orientée vers la satisfaction de besoins par la maîtrise spécifique de ressources rares. Mais son intelligibilité dépend toujours des formes de propriété, des règles juridiques, des relations de pouvoir et des attentes sociales dans lesquelles elle s'inscrit. Le calcul monétaire permet de comparer des moyens et des résultats, ce qui favorise une conduite rationnelle en finalité. Il ne suffit toutefois pas à expliquer pourquoi certaines organisations économiques apparaissent, ni comment elles se maintiennent. Les possibilités de calcul elles-mêmes dépendent de conditions institutionnelles, stabilité des droits, prévisibilité des règles, organisation administrative et disponibilité de moyens de paiement. Weber distingue aussi les comportements orientés par l'intérêt de ceux qui relèvent d'obligations communautaires, de traditions ou de valeurs. Cette pluralité empêche de présenter l'acteur économique comme un calculateur universel. Le marché est bien une forme de coordination fondée sur des échanges et des prix, mais il ne résume pas l'économie. Les ménages, les associations, les organisations politiques et les groupes de statut participent également à la distribution des ressources et des chances de vie. L'apport du livre est de relier les mécanismes économiques aux structures sociales qui les rendent possibles, les limitent ou leur donnent une orientation particulière. En dernier lieu, domination légitime, administration et différenciation des groupes sociaux. Weber étudie la domination comme la probabilité qu'un ordre déterminé rencontre l'obéissance chez certaines personnes. Le concept ne désigne donc pas seulement la violence ou l'influence diffuse, il vise un rapport organisé de commandement et d'obéissance. Sa stabilité dépend d'une croyance en la légitimité. Weber distingue idéalement trois fondements principaux : la tradition, attachée à la validité de coutumes consacrées, le charisme, lié à la reconnaissance de qualités extraordinaires chez un chef, et la légalité rationnelle, fondée sur des règles impersonnelles et des compétences définies. Cette dernière forme est décisive pour comprendre l'administration moderne. La bureaucratie accroît la prévisibilité, la spécialisation et la continuité des décisions grâce aux dossiers, aux règles et à la hiérarchie des fonctions. Elle peut cependant enfermer les rapports humains dans des procédures impersonnelles et concentrer un pouvoir considérable entre les mains d'appareils administratifs. L'analyse de la domination se prolonge par celle des classes, des groupes de statut et des partis. Les classes renvoient à des situations économiques et à des chances sur le marché, les groupes de statut à des formes de considération sociale et de style de vie, les partis à la recherche d'influence ou de pouvoir. Weber montre ainsi que la stratification sociale ne peut être ramenée à la seule propriété économique. Le prestige, l'organisation politique et les ressources administratives contribuent aussi à structurer durablement les inégalités. En conclusion, économie et société. Tome 1 convient surtout aux étudiants et chercheurs en sociologie, sciences politiques, droit, histoire, économie ou philosophie sociale. Mais il peut également intéresser tout lecteur prêt à travailler un texte théorique exigeant. Sa lecture apporte moins des réponses immédiates à des problèmes contemporains qu'une grammaire d'analyse particulièrement robuste. Elle aide à distinguer une habitude d'une règle, une contrainte d'une légitimité, un intérêt économique d'une conviction de valeur, ou encore une influence diffuse d'un rapport de domination organisé. Ces distinctions permettent de formuler plus précisément des questions sur les administrations, les marchés, les conflits politiques, les inégalités de statut et les transformations de l'autorité. L'ouvrage se démarque des introductions générales à la sociologie par son ambition méthodologique. Weber ne juxtapose pas des observations sur la société, il élabore des idéals types destinés à comparer des configurations historiques diverses sans les confondre avec la réalité. Cette construction donne au livre une portée durable, tout en imposant une lecture lente car les concepts s'éclairent mutuellement et les formulations restent parfois abstraites. Le caractère posthume et inachevé de l'ensemble, ainsi que l'histoire complexe de ses éditions et traductions françaises, invite aussi à situer précisément l'édition consultée. Malgré cette difficulté, le tome demeure irremplaçable pour comprendre comment des actions dotées de sens peuvent produire des ordres sociaux, des organisations économiques et des formes de pouvoir durables. Sa force est de tenir ensemble interprétation des motivations individuelles et analyse des structures collectives. Si vous souhaitez soutenir Max Weber, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.